VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 20 janvier 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia. Tout d'abord les titres au Sénégal. Le parquet a requis lundi 2 ans de prison ferme contre 2 députés ayant frappé une collègue à l'Assemblée nationale. La France condamne le soutien du Rwanda au mouvement rebelle M23 en RDC. Soutien que dément Kigali. En Libye, la Cour pénale à Tripoli a condamné à mort 17 djihadistes liés au groupe État islamique. Ici à Washington, la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole recommande des poursuites pénales contre l'ex-président américain Donald Trump. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. La justice sénégalaise a requis hier lundi 2 ans de prison ferme contre 2 députés d'opposition jugés à Dakar pour avoir frappé Amine Ndiaye, une collègue de la majorité à l'Assemblée nationale le 1er décembre. Cet incident a fait un grand scandale dans le pays, Nanit Talani.
Les 2 parlementaires, Massata Samb et Mamadou Niang, ont nié avoir frappé Amine Ndiaye. Ils ont allégué les injures que leur collègue a proférées, selon eux, contre eux-mêmes et contre leur chef religieux, Serigne Moustapha Sy, un influent marabout et dirigeant de leur parti politique. Mais le ministère public a demandé qu'il soit reconnu coupable de coups et blessures volontaires et menaces de mort. Le délit est flagrant. Aux 4 coins du monde, on a humilié le Sénégal, terni son image, a plaidé pour sa part Maître Babacar Cissé, l'avocat d'Amine Ndiaye. Il ajoute qu'elle a été hospitalisée après l'incident et risque de perdre son bébé. Elle est sortie de l'hôpital, mais est dans une situation extrêmement pénible, a-t-il dit. Elle était absente à l'audience. Maître Babacar Cissé réclame 500 millions de francs CFA de dommages et intérêts. La défense a plaidé que le procès ne pouvait avoir lieu compte tenu de l'immunité parlementaire des prévenus, mais la cour est passée outre. Le jugement a été mis en délibéré au 26 décembre. Après avoir disparu plusieurs jours, les 2 députés se sont présentés le 12 décembre à l'Assemblée. Ils ont été placés en garde à vue, puis écroués.
Au Nigeria, plus de 20 villageois ont été tués dans 2 attaques distinctes par des hommes armés dans l'état troublé de Kaduna dans le nord du pays, ont indiqué lundi des responsables locaux. Le bilan des violences de dimanche contre les villages de Malagoum 1 et Sakwang dans le district de Kora s'élève à 28 ou 37 morts selon les sources. Des bandes criminelles attaquent depuis des années des villages du nord-ouest et du centre du pays pour voler du bétail, enlever des habitants pour demander des rançons, piller de la nourriture et incendier les habitations. La France condamne le soutien du Rwanda au mouvement rebelle du M23, soupçonné de massacre d'au moins 131 civils fin novembre en République démocratique du Congo. Nous condamnons le soutien que le Rwanda apporte au groupe M23 et nous demandons que les processus de Luanda et de Nairobi puissent être intégralement mis en œuvre, a déclaré lundi Anne-Marie Legendre, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, dans un communiqué. Selon les autorités congolaises, des experts de l'ONU et la diplomatie américaine, le M23 est soutenu par le Rwanda, mais le président rwandais Paul Kagame a rejeté tout lien avec les actions du groupe. Jeudi, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, avait, lui, appelé le Rwanda à user de son influence sur le mouvement rebelle et d'y soutenir pleinement l'accord de Luanda afin de trouver une issue au conflit dans l'est de la RDC. À Tripoli, en Libye, la Cour pénale a condamné hier à la peine capitale 17 personnes reconnues coupables d'appartenance au groupe djihadiste État islamique et d'avoir commis dans le pays des violences meurtrières pour son compte, Jacques Aristide.
Outre ces peines de mort, le tribunal a condamné 2 suspects à la prison à vie et 14 autres à des peines de prison diverses, d'après le bureau du procureur général. La nationalité des condamnés n'a pas été précisée. Les 17 hommes ont été reconnus coupables d'avoir commis des actes associés au groupe État islamique et d'avoir porté atteinte à l'État et à la paix sociale, adoptant la violence et l'action armée dans la ville de Sabratha et ses environs, a ajouté le bureau du procureur dans un communiqué. Ils étaient accusés d'avoir tué 53 personnes, détruit des bâtiments publics et fait disparaître des dizaines de personnes. La Libye a sombré dans le chaos après le soulèvement ayant entraîné la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, avec des pouvoirs rivaux, une myriade de milices armées et des mercenaires étrangers disséminés dans le pays sur fond d'ingérences étrangères.
En Tunisie, l'autorité électorale a officiellement annoncé hier une participation de 11,22% aux élections législatives de samedi, très légèrement en hausse par rapport aux chiffres préliminaires de 8,8% rendus publics après la fermeture des urnes. Rosine Mounezero.
Le taux de participation définitive a été annoncé par le président de l'autorité électorale, Farouk Bouasker, lors d'une conférence de presse à Tunis. Même revue à la hausse, cette participation est la plus faible depuis la révolution qui a renversé la dictature en 2011, et c'est 3 fois moins que lors du référendum sur la Constitution l'été dernier, qui était de 30,5%, déjà marqué par une forte abstention. Le chef de la principale coalition d'opposants en Tunisie, Ahmed Nejib Chebbi, a appelé le président Kais Saied à partir immédiatement après le fiasco que constitue l'abstention massive lors des législatives boycottées par l'opposition. Après son coup de force du 25 juillet 2021 et la dissolution de l'ancien parlement, dénoncé comme un coup d'État par l'opposition, le président Saïd a fait adopter cet été une constitution qui réduit drastiquement les prérogatives du parlement. La nouvelle Assemblée des députés ne pourra pas destituer le président et il lui sera presque impossible de censurer le gouvernement. Il faudra 10 députés pour proposer une loi et le président aura la priorité pour faire adopter les siennes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et si aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump fera-t-il face à la justice pour l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021? La balle est dans le camp du ministère de la Justice après qu'une commission d'enquête parlementaire a recommandé hier à l'unanimité des poursuites pénales contre M. Trump. Le point avec Abdelrahman Dia.
La commission d'enquête de la Chambre des représentants a recommandé que l'ancien président soit poursuivi en justice pour appel à l'insurrection, entrave à une procédure officielle, complot à l'encontre de l'État américain et fausse déclaration. La commission a rassemblé des preuves significatives montrant que le président Trump a eu l'intention de perturber la transition pacifique du pouvoir telle que prévue dans notre constitution, a déclaré peu avant en vote l'élu démocrate Jamie Raskin. Nous pensons que les preuves accumulées lors de notre enquête justifient la recommandation de poursuite pénale contre Donald Trump, a-t-il ajouté. Ces chefs d'accusation sont passibles de peine de prison et d'une interdiction d'exercer toute fonction publique. La commission n'a pas d'autorité pour engager ces poursuites pénales elle-même et ne peut qu'émettre une recommandation au ministère américain de la Justice, seul habilité à inculper, le cas échéant, l'ancien président américain. Le 6 janvier 2021, des partisans de l'ancien président Trump, qui affirmaient comme lui que la présidentielle de 2020 lui avait été volée, avaient violemment attaqué le siège du Congrès à Washington dans l'espoir de stopper la certification des résultats.
Toujours à Washington, la Cour suprême a maintenu lundi une mesure mise en œuvre en mars 2020 par les autorités américaines au nom de la lutte contre la pandémie de COVID-19 permettant d'expulser les candidats à l'immigration, même les demandeurs d'asile potentiels. Le président de la Cour, John Roberts, a suspendu la suppression prévue mercredi de cette mesure intitulée Title 42. En bref, le président Vladimir Poutine a assuré lundi que la Russie n'allait pas absorber le Bélarus tout en prônant un renforcement des liens militaires avec ce pays allié à l'issue des pourparlers avec le président Alexandre Loukachenko. Comble de l'ironie venant d'un dirigeant qui cherche à absorber son autre voisin immédiat, l'Ukraine, selon le Département d'État américain. Verdict partagé. Pour Harvey Weinstein, l'ex-producteur déchu d'Hollywood, a été déclaré coupable lundi d'un viol et de deux agressions sexuelles au terme de son procès à Los Angeles, soit seulement la moitié des chefs d'accusation pour lesquels il était poursuivi. La Minute Éco, Nanit Talani.
La Centrafrique, qui a adopté le bitcoin comme monnaie légale en avril, a décidé de retarder l'inscription de sa crypto-monnaie, citant les conditions actuelles du marché et des raisons de marketing. Le plan visant à répertorier la pièce Sango sur des échanges cryptographiques a été suspendu jusqu'au premier trimestre 2023, indique un communiqué officiel de Bangui. La plus grande banque d'Éthiopie annonce la reprise de ses opérations financières dans certaines villes de la région troublée du Tigré après un arrêt de plus d'un an. À la suite de l'accord de paix conclu récemment, les succursales ont commencé à recevoir de l'argent envoyé de l'étranger et localement, et elles ont aussi reçu de l'argent en dépôt, indique la banque dans un communiqué lundi. Terminons par le géant industriel américain Honeywell, condamné à payer 160 millions de dollars pour régler des enquêtes criminelles et civiles au Brésil et aux États-Unis sur des pots de vin à un ex-haut responsable de Petrobras afin d'obtenir des contrats pétroliers entre 2010 et 2014, a annoncé lundi le gouvernement. Le règlement concerne également les accusations d'un versement en 2011 de plus de 75 000 dollars de pots de vin par Honeywell à des représentants du gouvernement algérien pour gagner des contrats avec la Sonatrach.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Eric Manirakidza. Eric, bonjour. Messi a rejoint dimanche l'Olympe du football en remportant enfin la Coupe du Monde.
Lionel Messi, qui n'était pas né quand Diego Maradona avait conquis la deuxième en 1986, rejoint l'idole au sommet du football mondial. Messi a guidé l'Albicéleste vers le sacre comme Maradona avant lui. À 35 ans, il a enfin gagné tous les trophées qu'il pouvait humainement gagner. Mais avec son 41e trophée collectif conquis chez les professionnels, sans compter un mondial de moins de 20 ans, Messi relègue quantitativement très loin Pelé, Maradona, Zinedine Zidane, Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff ou encore Frank Beckenbauer. Ce qui lui vaut de prétendre au statut de plus grand footballeur de l'histoire.
Cap sur l'Amérique en 2026 avec un format à 48 équipes.
La prochaine Coupe du Monde verra très grand après une édition resserrée dans le temps et l'espace au Qatar. Rendez-vous en 2026 pour un mondial à l'échelle du continent nord-américain entre Canada, États-Unis et Mexique avec pour la première fois 48 équipes et elle accueillera près d'un quart des 211 nations affiliées à la Fédération internationale FIFA au bout de trois décennies de Coupe du Monde disputées à 32 sélections.
Foot, Karim Benzema annonce la fin de sa carrière en équipe de France.
L'attaquant du Real l'a annoncé dans un message posté sur les réseaux sociaux au lendemain de la finale du Mondial 2022 perdue par les Bleus face à l'Argentine. « J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin », a écrit sur son compte Twitter le Ballon d'Or 2022. Le jour de ses 35 ans, en accompagnant son message d'une photo de lui sous le maillot des Bleus.
L'Américain Textor devient l'actionnaire majoritaire de l'Olympique Lyonnais.
Une nouvelle histoire débute aujourd'hui, affirmait l'investisseur américain cité dans ce communiqué publié après la clôture de la Bourse de Paris, au terme de 6 mois de négociations ponctuées de plusieurs reports.
En athlétisme, le sprinteur kényan Mark Otieno, suspendu pour dopage.
Il a été officiellement suspendu pour une durée de 2 ans, a annoncé hier lundi l'unité d'intégrité de l'athlétisme, un organisme indépendant créé en 2017. Otieno, triple champion national du 100 mètres, avait été testé positif à la métastérone, un stéroïde anabolisant, pendant les derniers Jeux Olympiques en juillet 2021 à Tokyo. et en avait été exclu alors qu'il s'apprêtait à disputer les séries du 100 mètres.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Afrique du Sud, l'ANC, le parti au pouvoir, a réélu à sa présidence lundi Cyril Ramaphosa. Cette victoire le place en bonne position pour un second mandat à la tête du pays, à condition que l'ANC remporte les élections générales de 2024. De Johannesburg, notre correspondante Patricia Huon.
Les petites huttes en forme de dôme s'étendent dans toutes les directions autour de la ville. Des abris de fortune bricolés avec des branchages, des morceaux de tissu et des bâches. Accroupie devant l'une d'elles, Abshira Hassan partage une bouillie de sorgho avec ses 6 enfants. Le seul repas de la journée. Cinq saisons des pluies manquées, c'est la pire sécheresse qu'ait connue la Somalie en 40 ans. Sur la modeste ferme, les récoltes ont flétri, le puits s'est asséché, les chèvres et les vaches sont mortes. Puis Barline, la dernière née, une fillette de 2 ans, est tombée malade. Abshira et sa famille ont marché pendant plusieurs jours sous un soleil ardent pour trouver refuge à Baidoa. Tout autour de la ville, les vastes plaines arides sont sous le joug de la milice islamiste Al-Shabaab. Dans un centre de nutrition de la ville, une dizaine d'enfants et de bébés chétifs attendent d'être pesés et auscultés. Une infirmière note leur poids, une autre remet à leur mère des sachets de plum peanut, une pâte d'arachide riche en nutriments. Environ un tiers des enfants souffrent de malnutrition aiguë, dit le docteur Ali Nour Mohamed.
We receive 50 to 60 cases per week, which is severely acute malnourished. Any child who has with a medical complication, we admit to the AC.
Beaucoup ici craignent que l'histoire se répète. Les deux dernières grandes famines en Somalie, en 1992 et en 2011, ont tué un demi-million de personnes à L2. Adam Abdelmoulak, coordinateur de l'action humanitaire au sein de la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie.
Maintaining the current level of humanitarian support is contingent on us getting the resources that we need. In 2010-2011, when famine was declared, most of the 260,000 people who perished had already perished.
Ces dernières semaines, il est tombé quelques gouttes d'eau sur Baidoa où plus de la moitié des 800 000 habitants de la ville sont désormais des déplacés. Mais les prévisions suggèrent que la prochaine saison des pluies, qui doit commencer en mars, pourrait également être insuffisante. Pour Barline, affaiblie par la faim et la maladie, il était déjà trop tard. Abshira s'inquiète désormais pour son fils, qu'elle tient dans les bras. Le garçon de 3 ans, fiévreux, le visage bouffi, est malade depuis plusieurs jours. Dans ses prières quotidiennes, elle ne demande plus grand-chose, juste que ses enfants survivent. De retour de Baidoa, Patricia Huon pour VOA Afrique.
La COP15 de Montréal sur la biodiversité s'est terminée lundi par un accord qualifié par beaucoup d'historique. Pour tenter de stopper la destruction de la nature et empêcher une 6e extinction de masse. À quoi l'humanité peut-elle réellement s'attendre de cet accord? Pour des éclaircissements, Rosine Munezero a joint Chermo, directeur du Centre de suivi économique du Sénégal.
Je pense que de plus en plus, les négociations multilatérales prennent en compte les préoccupations des pays pauvres, qui sont pour l'instant les endroits où l'essentiel des solutions, que ce soit biodiversité ou climat, vont se gagner ou se perdre. Et dans le cadre de la biodiversité, on sait tous que les pays tropicaux, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Indonésie, etc., constituent les endroits qui sont les plus appropriés pour apporter un peu une réponse à cette menace d'extinction des espèces qui sont liées à plusieurs facteurs. Je crois que cet accord nous permet d'avoir une pierre blanche dans l'avenir de la gestion de la biodiversité parce que ça va permettre de mettre en œuvre les accords sur l'équité en matière de biodiversité, mais aussi ça va permettre d'avoir le consentement prioritaire qui permet aux pays de pouvoir bénéficier des ressources naturelles dont ils disposent et qui ont été depuis très longtemps exploitées injustement par les grandes firmes internationales, les pays développés, dans les pays développés. Et l'autre caractère historique pour moi de ces négociations, c'est le côté financier, parce que pour préserver la biodiversité, il va falloir accepter de mettre sur la table de l'argent. Évidemment, on n'est pas au même niveau que l'espoir qui a été porté par ces négociations, mais ce qui a été proposé permet de pouvoir structurer des programmes majeurs de gestion de la biodiversité et surtout des programmes qui vont aller à l'endroit des peuples autochtones. Je veux rappeler ici que ces peuples autochtones gèrent dans une très large mesure la biodiversité dont la planète a besoin pour pouvoir répondre à ces grands défis environnementaux.
Alors, le plan décennal précédent signé au Japon en 2010 n'a atteint quasiment aucun de ses objectifs, notamment en raison de l'absence de mécanismes d'application véritables. Qu'en est-il de celui-ci? Y a-t-il des mécanismes pour justement éviter qu'il soit un accord sur papier?
Pour moi, d'abord, les accords de Nagoya devraient venir avec une connaissance assez précise de la biodiversité dans les sites où cette biodiversité a une signification particulière. Et l'essentiel de ces informations, évidemment, sont les informations qui existent de ces sites sont détenues pour l'instant au niveau des pays qui ne sont pas les pays qui abritent cette biodiversité. Donc, il y a un premier niveau d'équilibre qu'il faudrait revisiter, c'est qui détient l'information et qu'est-ce qu'elle fait de l'information. Si nous prenons, par exemple, les banques génétiques qui existent à travers le monde, elles ne sont pas en Afrique, elles ne sont pas là où il y a la biodiversité. On ne peut pas gérer quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Je pense qu'il y a un premier niveau ici de renforcement de capacité que les États qui abritent cette biodiversité doivent consentir, mais aussi dans le cadre des accords qui viennent d'être posés, on pourra faire du rattrapage pour investir davantage sur le renforcement de capacité, pour investir sur les bases de données, sur la traçabilité, sur les questions de certification, sur la protection des peuples autochtones, sur la protection des services et des écosystèmes négligés, sur la protection des pratiques qui permettent de préserver la biodiversité, y compris les pratiques agricoles. C'est tout un arsenal de capacités de mise en œuvre qui passe par l'information, par les renforcements de capacité, qui n'a pas été fait. Et donc, je pense qu'avec l'investissement qui est consenti avec cet accord de Montréal, il sera possible de structurer un peu ce facteur d'accompagnement qui a manqué jusque-là et qui n'a pas permis aux pays qui abritent la biodiversité de pouvoir mettre en œuvre le plan d'action.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Ici aux États-Unis, le temps presse pour les législateurs appelés cette semaine à adopter un projet de loi massif finançant le gouvernement fédéral jusqu'en septembre prochain. Le budget militaire et de nouvelles aides à l'Ukraine font partie des éléments importants en cours de négociation. Catherine Gibson, la correspondante de la VOA au Congrès, nous en dit plus. Récit de Jacques Aristide.
L'administration du président Joe Biden envisage de fournir à l'Ukraine le système anti-aérien Patriot pour contrer l'agression russe. L'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis est d'avis que ce soutien est vital. Oksana Markarova intervenait dimanche dans l'émission This Week de la chaîne ABC.
Il y a une attaque massive contre les infrastructures civiles. 50% du réseau énergétique est détruit. Nous devons l'arrêter. Et la seule façon de le faire est d'augmenter les défenses aériennes partout en Ukraine.
Les élus américains tentent de mettre les bouchées doubles en cette fin d'année pour finaliser une série de projets de loi visant à financer le gouvernement pour l'exercice en cours. Mais ils n'ont pas pu parvenir à un accord sur la réforme de l'immigration au moment même où le Title 42, une politique mise en place pour limiter l'immigration durant la pandémie de Covid-19, arrive à terme ce mercredi. Le sénateur démocrate Joe Manchin.
Le Title 42 doit être prolongé jusqu'à ce que nous puissions vraiment réformer l'immigration.
Les républicains avertissent que la suppression des procédures pour limiter l'immigration pourrait provoquer une crise à la frontière. Pour Tony Gonzalez, élu républicain du Texas, la situation est désastreuse. Il prenait part au programme Face the Nation de la chaîne CBS.
C'est un ouragan d'immigrants et tout le monde en subit l'impact.
Quant à la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, elle publie son rapport cette semaine. Au cours de Inside Politics de CNN, l'élu démocrate Adam Schiff indique que des actes d'accusation sont attendus.
Je pense que les preuves sont là, montrant que Donald Trump a commis des infractions pénales dans le cadre de ses efforts pour faire annuler les élections. Et, en ma qualité d'ancien procureur, je pense qu'il y a suffisamment de preuves pour l'inculper.
Il ne reste que 5 jours de travail pour le Congrès américain avant les vacances de fin d'année. En janvier, un nouveau Congrès prêtera serment avec une majorité républicaine à la Chambre des représentants des États-Unis.
L'année 2022 tire à sa fin. La rédaction de VOA Afrique revient sur certains des grands événements qui ont marqué cette année. Ce matin, nous vous proposons une rétrospective portant sur le décès de la reine Elisabeth II, survenue en septembre après 7 décennies sur le trône. Son décès a été pleuré dans le monde entier et ses funérailles ont été suivies par des millions de personnes. Henry Ridgewell revient sur cette période extraordinaire de l'histoire du Royaume-Uni. Le récit est de Rosine Munezero.
Son dernier devoir en tant que chef d'État, la reine Elisabeth II a officiellement demandé à Liz Truss de former un nouveau gouvernement le 6 septembre. Son visage a gardé la luminosité familière, mais sa fragilité est évidente. 2 jours plus tard, dans la soirée du 8 septembre, on annonce que le plus ancien monarque de Grande-Bretagne est décédé dans sa résidence de Balmoral en Écosse. Il avait 96 ans.
Ce fut un choc très considérable parce que même s'il était clair depuis quelques heures que c'était presque certain, c'est ce que la nation redoutait d'attendre.
Si la fin d'une époque extraordinaire, il avait servi 70 ans sur le trône, nommé 15 premiers ministres et voyagé dans 106 pays en tant que chef d'État britannique. Sa mort a déclenché 11 jours de faste et de cérémonies méticuleusement planifiées et de deuil à travers la nation, le Commonwealth et le monde.
C'est comme si ça n'avait pas encore frappé. C'est juste très étrange. C'est un sentiment très étrange.
Bouleversé, ému, je me demande ce qui va se passer ensuite.
God save the king.
Le premier fils d'Elisabeth monte sur le trône à sa mort, devenant le roi Charles III.
To my darling mama,
à ma chère maman, alors que tu entames ton dernier grand voyage pour rejoindre mon cher défunt papa, je veux te dire ceci. Merci. Merci pour ton amour et ton dévouement à notre famille et à la famille des nations que tu as servi avec tant de diligence pendant toutes ces années. Que des cœurs angéliques t'accompagnent jusqu'à ton repos.
Le corps d'Elisabeth est conduit à travers les Highlands écossais jusqu'à Édimbourg, puis à Londres. Au palais de Buckingham, la famille royale a fait des adieux privés. Son corps a été transporté en calèche jusqu'à Westminster, où le public a pu lui rendre hommage pour pleurer sa matriarche. Les files d'attente pour voir le cercueil s'étendent sur plusieurs kilomètres.
Je pense qu'il est important pour nous de marquer cette occasion parce que c'est une partie énorme de l'histoire.
18 monarques, 55 présidents et 25 premiers ministres ont assisté aux funérailles.
Je pense que la façon dont les funérailles de la reine ont été menées pendant cette période à Edinburgh, à Londres et à Windsor fera partie de l'iconographie de la Grande-Bretagne et aussi de celle du Commonwealth. Le fait que cela ait été fait avec une telle précision, un tel kaléidoscope de couleurs et que cela ait été si émouvant.
Elisabeth a été enterrée dans la chapelle Saint-Georges de Windsor, aux côtés de son époux bien-aimé, le prince Philippe. Le roi Charles a hérité d'un pays politiquement divisé qui a perdu sa figure de proue tant appréciée. Son plus grand défi est de faire en sorte que la monarchie reste pertinente alors qu'elle est en proie à des troubles familiaux et à un examen approfondi. Son couronnement est prévu pour mai 2023.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde, Firmin Koyaweda. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour en suivre de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.